Walter Scott, Quentin Durward. Chapitre 14, Liège. Une fois dans l'appartement qui lui avait été assigné, Quentin se sentit tout triste et tout isolé. Mais il secoua sa tristesse en écrivant au roi Louis que les dames de Croix étaient heureusement arrivées à Liège. Il dépêcha Charlet, l'un des valets de l'escorte, pour porter la lettre au roi. À la fin, toute son ardeur et toute sa gaieté lui furent rendues par la vue d'un vieux roman, récemment imprimé à Strasbourg, qu'il avait trouvé sur l'appui de sa fenêtre. Le titre du roman disait ceci. « Comment l'écuyer d'humble fortune aima la fille du roi de Hongrie ?» Pendant qu'il méditait sur ces paroles, quelqu'un lui toucha légèrement l'épaule. Levant les yeux, il vit le bohémien debout devant lui. La vue de Herdin, qui ne l'avait jamais charmé, lui était odieuse depuis sa tentative de trahison. Aussi, il lui demanda avec dureté comment il osait prendre la liberté de toucher un chrétien et un gentilhomme. « Simplement, répondit le bohémien, parce que je désirais savoir si le gentilhomme chrétien avait perdu le sentiment aussi bien que la vue et l'ouïe. Il y a 5 minutes que je vous parle, sans que vous leviez les yeux de ce grimoire. Eh bien, que me veux-tu? Parle et va-t'en. Je demande mon dû, répondit Herdin, mes 10 couronnes d'or pour avoir amené les dames ici. De quel front oses-tu me demander autre chose que d'épargner ta misérable vie? Dit Durward avec emportement. Tu sais bien que ton dessein était de les trahir en route. Mais je ne les ai pas trahis, répondit Herdin. Si je l'avais fait, ce ne serait ni à elle ni à vous que je demanderais mon salaire. Je le demanderais à celui qui aurait profité de ma trahison. C'est à ceux que j'ai servi de me payer. Que ton salaire périsse avec toi, traître, s'écria Quentin, en lui jetant les pièces d'or. Je veux vous surprendre par ma gratitude, répliqua Herdin. Si vous m'aviez refusé mon dû, nous aurions été quittes. Et je vous aurais abandonné à votre propre aveuglement. Mais maintenant je reste votre débiteur, pour ce que vous avez fait là-bas, sur les bords du Cher. Il me semble que je me suis déjà payé de mes propres mains, en te maudissant et en t'insultant. Bonne ou mauvaise parole, dit le Zingaro, ne sont que du vent, et ne pèsent pas dans la balance. Ah, si vous m'aviez frappé au lieu de me menacer, je me paierai probablement de cette monnaie-là, si tu continues à me provoquer. Je ne vous le conseillerais pas, répliqua le Zingaro. Ce genre de paiement pourrait excéder la dette, et cet excédent, je ne serai homme ni à l'oublier, ni à le pardonner. Et maintenant, adieu. Mais pas pour longtemps. Je m'en vais prendre congé des dames de Croix. Toi, s'écria Quentin stupéfait, toi être admis en la présence de ces dames, et ici, où elles sont en quelque sorte des recluses, sous la protection de la sœur de l'évêque, une noble chanoinesse, c'est impossible. Néanmoins, Marton m'attend pour me conduire en leur présence, dit le Zingaro avec un ricanement. Et je vous prie de m'excuser si je vous quitte un peu brusquement. Au moment de sortir, il revint sur ses pas, et dit avec un ton de sérieuse emphase. Je connais vos espérances. Elles sont audacieuses, mais elles ne seront pas vaines si je m'en mêle. Je connais vos craintes. Elles devraient vous enseigner la prudence et non pas la timidité. Il n'est pas de femme qu'on ne puisse gagner. Comte, c'est un sobriquet qui siérait aussi bien à Quentin que le sobriquet de duc à Charles ou celui de roi à Louis. Sans laisser à Quentin le temps de répondre un seul mot, le bohémien disparut. Quentin le suivit aussitôt, mais comme il connaissait mieux que lui les passages du palais, Herdin conservait de l'avance. L'autre le perdit de vue au moment où il descendait un petit escalier. Durward continua à le poursuivre sans trop savoir pourquoi. L'escalier aboutissait à une porte qui s'ouvrait sur une allée du jardin. Il aperçut de nouveau le bohémien qui suivait à pas pressés une allée en charmille. Sur deux de ses côtés, le jardin était entouré par les bâtiments du château. Les deux autres avaient pour clôture deux hautes murailles crénelées, En suivant les allées jusqu'à une autre partie du château, le Zingaro arriva à une poterne qui s'ouvrait derrière un énorme arc-boutant massif, envahi par le lierre. Là, Erdin se retourna et agita sa main d'un air de triomphe, en manière d'adieu à celui qui le poursuivait. Quentin vit Marton lui ouvrir la poterne et introduire le vil bohémien dans l'intérieur du logis, qui devait être celui des dames de croix. Il se mordit les lèvres d'indignation et se reprocha sévèrement de n'avoir pas fait connaître à ces dames l'infamie du caractère d'Erdin et ses machinations contre leur sûreté. L'arrogance avec laquelle le bohémien lui avait promis de favoriser ses projets ajoutait encore à sa colère et à son dégoût. Il lui semblait que la main même de la comtesse Isabelle serait profanée par un tel patronage, à supposer même qu'il pût jamais l'obtenir. Mais, se dit-il, tout cela n'est que jonglerie. Il s'est procuré accès auprès de ces dames sous quelque faux prétexte et avec quelque intention pernicieuse. Il est bon que j'aie découvert où elles logent. Je vais guetter Marton et solliciter une entrevue, ne fût-ce que pour les mettre sur leur garde. Comme Marton ne se montrait pas et que Quentin craignait d'attirer l'attention en restant trop longtemps au jardin, il résolut pour se distraire d'aller visiter la ville de Liège. En peu de temps, il se trouva dans les murs de cette cité, la plus riche du pays de Flandre et par conséquent du monde entier. Au bout de quelques minutes, la curiosité de Quentin fut si vivement excitée par la variété des objets qui se présentaient en foule à sa vue dans les rues affairées de Liège, qu'il oublia pour un temps l'existence de la comtesse Isabelle et du bohémien. Mais il ne tarda pas à s'apercevoir qu'il excitait autant de curiosité qu'il pouvait en éprouver lui-même. Des groupes de gros bourgeois florissants le regardaient avec autant d'attention que d'intérêt. Ils chuchotaient entre eux en le regardant, et ces chuchotements devinrent bientôt le bourdonnement sourd et continu d'une foule compacte, car les curieux s'amassaient rapidement. Tous avaient les yeux fixés sur le jeune Écossais, et dans leur curiosité, il y avait un certain mélange de respect. Quentin regarda autour de lui et remarqua un gros homme de bonne mine, avec un pourpoint de velours et une chaîne d'or. Un bourgeois d'importance, un magistrat peut-être. Il lui dit: Voyez-vous dans ma personne quelque chose de particulier, de nature à attirer l'attention publique? Ou bien est-ce la coutume, en ce pays-ci, de s'attrouper autour des étrangers? Assurément non, mon bon seigneur, répondit le bourgeois. Les gens de Liège ne sont pas assez badauds pour cela. Et il n'y a rien de particulier dans votre costume et dans votre personne, sauf une chose que nos citadins sont heureux de voir et désireux d'honorer. Voilà qui est fort poli, digne sire, répondit Quentin. Mais par la croix de Saint-André, je ne me doute pas de ce que vous voulez dire. Votre exclamation, beau sire, répondit le marchand de Liège, me prouve que notre conjecture est juste. Nous ne vous ferons pas de questions, dit le bourgeois. Mais écoutez, un mot à l'oreille. Je m'appelle Pavillon. Et qu'ai-je à y voir, seigneur Pavillon? Demanda Quentin. Non, rien. Seulement, je croyais que cela vous prouverait que l'on peut se fier à moi. Voici aussi mon collègue Rousselaire. Rousselaire s'avança. C'était un dignitaire corpulent, dont le ventre arrondi et proéminent ouvrait la foule devant lui. Il recommanda tout bas la prudence à son collègue et lui dit d'un ton de reproche: Vous oubliez, mon bon collègue, que nous sommes en place publique. Le seigneur va venir chez vous ou chez moi boire un verre de vin sucré et nous en dire plus long sur notre bon ami et allié, que nous aimons de tout notre cœur, comme d'honnêtes flamands. Je n'ai à vous donner de nouvelles de personne, s'écria Quentin avec impatience. Je ne boirai point de vin sucré. Tout ce que je vous demande, puisque vous êtes des hommes respectables et considérés, c'est de permettre à un étranger de sortir de votre ville aussi paisiblement qu'il y est entré. Eh bien, dit Rousselaire, puisque vous tenez tant à garder l'incognito, même avec nous à qui l'on peut se fier, permettez-moi de vous demander rondement pourquoi vous portez l'insigne de votre compagnie, si vous tenez à n'être pas reconnu à Liège. Mais quel insigne! Quelle compagnie! Dit Quentin. Vous m'avez l'air de deux hommes respectables et de deux graves bourgeois. Et cependant, sur mon âme, ou bien vous êtes fou vous-même, ou bien vous cherchez à me rendre fou. Sapperment! S'écria l'autre bourgeois. Ce jeune homme ferait jurer Saint-Lambert. Eh bien, qui porte donc des bonnets avec la croix de Saint-André et la fleur de lys, sinon les archers écossais de la garde du roi Louis? Supposez que je sois archer de la garde écossaise, que trouvez-vous de surprenant à ce que je porte l'insigne de ma compagnie? Dit Quentin avec impatience. Il l'a avoué, il l'a avoué! S'écrièrent Rousselaire et Pavillon, en se tournant vers les bourgeois, qui donnèrent aussitôt des signes de vive satisfaction. Il a avoué qu'il est archer de la garde de Louis le protecteur des libertés de Liège. La multitude tout entière se mit à pousser des exclamations. Vive Louis de France! Vive la garde écossaise! Vive le vaillant archer! Nos libertés, nos privilèges ou la mort! Pas d'impôts! Vive le vaillant sanglier des Ardennes! À bas Charles de Bourgogne! Et confusion à Bourbon et à son épiscopat! À moitié étourdi par ce tumulte qui ne cessait d'un côté que pour recommencer de l'autre, Quentin eut néanmoins le temps de se trouver une règle de conduite. Détromper cette foule affolée, c'était chose impossible, peut-être dangereuse, et dangereuse sans aucune utilité. Il se décida donc tout de suite à temporiser et à se tirer de là du mieux qu'il pourrait. Il forma cette résolution pendant qu'on le conduisait à la maison d'État, où les notables s'assemblaient, d'abord pour apprendre les nouvelles qu'il apportait, ensuite pour lui offrir un magnifique banquet. Ses deux amis, qui étaient syndics de la cité, le tenaient chacun par un bras. Dans son embarras, Quentin s'adressa à Rousselaire et à Pavillon, dont il était pour ainsi dire le prisonnier, au milieu d'une foule immense. Si on le conduisait à la maison d'État, il serait obligé, à son grand regret, de communiquer à l'assemblée des notables ce qu'il avait compté réserver pour les oreilles de ses excellents compères, Meinheers Rousselaire et Pavillon de Liège. Cette dernière allusion produisit un effet magique sur les deux citoyens, qui étaient les chefs reconnus des bourgeois mécontents, et qui, comme tous les démagogues de leur espèce, désiraient avoir le maniement exclusif de toutes les affaires autant que possible. Ils décidèrent sommairement que Quentin sortirait de la ville à l'instant et qu'il y rentrerait de nuit pour conférer avec ses deux compères chez Rousselaire, près de la porte la plus éloignée de Schoenwald. Quentin n'hésita pas à laisser connaître qu'il résidait pour le moment au palais de l'évêque, sous prétexte d'apporter des dépêches de la cour, tandis que sa mission réelle était, comme il l'avait si bien conjecturé, d'entrer en communication avec les bourgeois de Liège. Presque aussitôt après que Quentin leur eut donné cet éclaircissement, la procession arriva en face de la maison de Pavillon. Cette maison, située dans une des rues principales, communiquait avec la Meuse par un vaste jardin et par une tannerie, car le bourgeois patriote était tanneur de son métier. Il était naturel que Pavillon désirât faire les honneurs de sa maison au prétendu envoyé de Louis, et la multitude ne s'en émut pas. Au contraire, elle poussa un vivat en l'honneur de Meinheer Pavillon quand il introduisit chez lui son hôte distingué. Quentin échangea aussitôt son trop remarquable bonnet contre celui d'un tanneur et jeta un manteau sur ses épaules. Pavillon le munit d'un passeport pour qu'il pût revenir de nuit ou de jour à son gré et chargea sa fille, la jolie Trudchen, de faire évader le bel étranger par le jardin. Puis le tanneur s'en alla rejoindre son compère Rousselaire pour l'aider à amuser les autres notables avec les meilleures excuses qu'il pourrait imaginer pour expliquer sa disparition. Trudchen, aussitôt après le départ de son père, conduisit l'étranger jusqu'au bord de l'eau. Là, deux vigoureux flamands se tenaient tout près dans une barque. Aussitôt que Quentin y fut monté, après avoir remercié la jolie fille du tanneur, les deux rameurs se mirent à l'œuvre. Pendant que la barque remontait le cours de la Meuse et dépassait les défenses de la place, Quentin réfléchissait. En quels termes raconterait-il son aventure une fois rentré au palais de Schoenwald? dédaignant de trahir ceux qui avaient eu confiance en lui, encore que ce fût par suite d'un malentendu, ou de cacher au prélat les sentiments de rébellion de sa capitale, il résolut d'en dire juste assez pour mettre l'évêque sur ses gardes, sans désigner personne à sa vengeance. Ses compagnons le débarquèrent à un demi-mille du château. Si courte que fût la distance, la cloche du château avait sonné le dîner avant qu'il l'eût parcouru. De plus, il s'aperçut que l'entrée principale n'était pas de son côté, et qu'il perdrait beaucoup de temps à faire le tour du château. Il marcha donc tout droit vers le côté qu'il avait en face de lui. C'était un mur crénelé, probablement celui qui formait une des clôtures du petit jardin. Une poterne ouvrait sur le fossé. Une barque était amarrée près de la poterne. En appelant quelqu'un, on pouvait se faire passer. Comme il s'approchait, la poterne s'ouvrit, un homme en sortit, et, sautant dans la barque, se dirigea vers l'extrémité la plus éloignée du fossé. Il mit pied à terre et se servit d'une longue perche pour repousser la barque vers l'endroit où il l'avait prise. En s'approchant davantage, Quentin reconnut le bohémien, qui s'éloigna rapidement dans la direction de Liège, en prenant un autre sentier. Il y avait là un nouveau sujet de méditation. Est-ce que ce païen vagabond avait passé tout ce temps avec les dames de Croix? Et quelle raison pouvait les avoir déterminées à lui accorder une si longue audience? Tourmenté par cette pensée, Quentin se sentit doublement décidé à avoir une explication avec elles pour leur dévoiler la perfidie de Herdain et pour leur faire connaître le danger que courait leur protecteur en face d'une ville toute prête à se mutiner. Quand il entra par la porte principale, il trouva déjà à table, dans la grande galerie, tous ceux qui avaient le droit, de par leur rang, de dîner en compagnie du prince évêque. Un siège avait été réservé pour Quentin, au haut bout de la table, à côté du chapelain. Après s'être excusé de son retard, il raconta en peu de mots quel tumulte s'était élevé dans les rues de Liège quand on avait découvert qu'il appartenait à la garde écossaise. Il essaya de tourner la chose en plaisanterie, en disant qu'il s'était tiré d'affaire grâce à un gros bourgeois et à sa jolie fille. Mais la plaisanterie ne réussit pas. Les convives prenaient un trop vif intérêt au fond même de l'histoire. Le dîner fut interrompu pendant que Quentin parlait, et son récit fut suivi d'un silence solennel. Ce fut le majordome qui le rompit, en disant à voix basse et d'un ton mélancolique: « Je voudrais bien voir arriver ces 100 lances du duc de Bourgogne. »